je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle heure d'Happy Hour aujourd'hui consacrée à l'accueil des réfugiés en Lozère et ce par le prisme de deux associations qui les accompagnent. Comment les accompagnent-ils, c'est-à-dire dans quelles conditions et avec quels moyens et pour quelle forme d'intégration des primo-arrivants sur le territoire lozérien et plus largement dans les territoires ruraux? Pour faire écho à cette annonce du président en septembre dernier, une volonté de décentraliser ou territorialiser l'accueil des exilés que contenait aussi le projet de loi immigration du gouvernement, dont l'avenir reste pour l'heure en suspens, mais qui est venu remettre sur la table fin mars une circulaire ministérielle qui indique que les migrants seront incités à partir en province dans des sas d'hébergement, c'est le nom qu'on leur a donné, dans l'objectif de désengorger les grandes métropoles, en premier lieu desquelles la région parisienne. Peut-être que nos deux invités auront un avis à nous donner sur ce sujet, mais commençons déjà par les présenter. Corinne Sauvion, Nicolas Trottoin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Corinne Sauvion, vous êtes directrice de l'association La Traverse, basée à Mende. Donc La Traverse qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et qui propose, entre autres aussi, mais avec, vous nous le préciserez un peu plus tard, un service d'accueil d'urgence. Et quant à vous, Nicolas Trottoin, vous êtes secrétaire général de la Ligue de l'enseignement de Lozère, qui est aussi basée à Mende. La Ligue qui est un réseau associatif issu notamment du mouvement d'éducation populaire et qui possède plusieurs antennes locales en France. Et puis, j'oublie pas de présenter nos deux chroniqueurs invétérés, Eric et Cyril. Salut à tous les deux.
Salut.
Et bonjour les gens.
Alors, de quoi vous allez nous parler chacun?
Alors, moi, ça va avoir rien à voir. Je vais vous parler d'un film.
Un film. Et quant à toi, Eric?
Moi non plus. Moi, je vais vous parler d'IA.
D'IA, ok. Intelligence artificielle. Très bien.
Ah, je croyais de l'entreprise qui fabrique de la bouffe. D'IA.
Ah oui, D'IA. Ouais. Pas de pub, Nicolas, s'il vous plaît.
Je ne vous parlerai pas non plus de Lidl, ni de Carrefour, ni
voilà,
de Hyper-U.
Tout à fait. On aura cité tout le monde. Nicolas Trottoin, Corinne Sauvion, je propose pour commencer par un peu de sémantique en introduction de cette émission. J'ai employé plusieurs mots parce que j'avoue que moi-même, j'ai eu du mal à choisir, en fait. Entre réfugiés, exilés, migrants, primo-arrivants, qu'est-ce qui distingue déjà ces premiers termes? Et est-ce que vous, vous diriez qu'il y en a un qui est plus approprié qu'un autre?
Oula, vaste question. Alors, plus approprié, je crois pas, parce que justement, la langue française est faite pour qu'il y ait une définition pour chaque situation. En ce qui nous concerne, en tout cas au niveau de l'association, nous sommes sur des demandeurs d'asile, principalement, qui ensuite, en fonction des démarches qui ont abouti ou non, arrivent à avoir un statut de réfugié.
Voilà, statut de réfugié, c'est quelque chose de spécifique en France.
Ouais, c'est ça. Après, on parle de protection, etc. Oui. On pourra peut-être en reparler, d'ailleurs. Protection subsidiaire, protection temporaire. Hein, des notions qui sont apparues en 2001, je crois, pour le temporaire. Oui. Mais qui n'ont pris leur place qu'en 2021 avec l'accueil des Ukrainiens. Nous, on accueille des gens qui migrent, en fait. Voilà. Donc ils ne sont pas toujours demandeurs.
Mmh. Qui ont le statut de réfugié, effectivement, plus.
Alors, certains l'ont et d'autres ne l'ont pas. Et voilà. Ils ne le demanderont pas. Voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que tous ces mots sont compliqués. Alors, après, on mélange un petit peu tout parce que ça a été très politisé et ça permet aussi à pas mal de monde de jouer là-dessus. Donc, c'est vrai que d'être précis, c'est assez important.
Mmh. Donc le terme de primo-arrivant, c'est peut-être celui qui correspond, on va le voir après par la suite, mais qui correspond aux gens que vous accueillez en tout cas dans vos associations, si on dit primo-arrivant pour la suite de l'émission.
Oui, ou demandeur d'asile. Enfin, moi, je crois que c'est vraiment beaucoup plus large et ça permet d'identifier effectivement une demande,
une démarche,
et puis des difficultés derrière primo-arrivant. Voilà, c'est... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui, oui.
Je trouve
que c'est plus respectueux aussi.
C'est ça.
Voilà.
Entendu. Eh ben, c'est noté. Avant de revenir plus en détail sur les types d'accompagnement et d'accueil que vous proposez à ces demandeurs d'asile, je propose que vous présentiez un peu plus en détail chacun vos deux structures. Donc, on va commencer par vous, Corinne Sauvion, à La Traverse. Donc, j'ai dit que c'était un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'accueil d'urgence aussi, voilà. CHRS.
Ça, c'est effectivement l'acronyme, hein, CHRS, mais l'association La Traverse, en fait, existe depuis 40 ans. On a fêté les 40 ans en décembre 2022, qui a une longue histoire par rapport aux différents dispositifs. Donc, premier dispositif, c'était de l'accueil pour les personnes à la rue et les personnes qui sortaient de prison. Ça venait juste après l'abolition de la peine de mort en 81. Et puis, petit à petit, voilà, les services se sont construits, donc accueil de jour, accueil de nuit, etc. Aujourd'hui, donc, nous sommes une association de 26 salariés. Alors, il y a effectivement le centre d'hébergement d'urgence, le CHRS, qui a 6 travailleurs sociaux, 2 surveillants de nuit. Et puisque nous sommes sur de l'accueil 24-24, 365 jours par an.
Et vous avez 2 locaux, hein ?
Alors, on a 3 sites.
3 sites.
3 sites. Donc, le CHRS et les bureaux de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, effectivement, qui se situent à côté de la gare SNCF. Ensuite, nous avons l'accueil de jour qui est pas très loin d'ici, hein, donc qui est ouvert aux personnes qui sont hébergées à l'hébergement d'urgence, mais pas que, puisque nous faisons la domiciliation, les petits déjeuners, l'accompagnement social, tout ce qui est lié aussi aux douches, la vrille, etc. Et dans ces mêmes locaux, en fait, on a des bureaux avec des travailleurs sociaux pour des suivis dans des logements un peu plus autonomes, parce qu'on a plusieurs types, en fait. On a l'hébergement d'urgence, la mise à l'abri, de l'hébergement temporaire. Donc, les personnes sont dans des logements qui sont meublés. Donc, on les accompagne sur des durées un peu plus longues. Et ensuite, du logement. Donc, on a un service pour le logement temporaire dans les locaux de la rue du Torrent, je parle. Et nous avons également le service juridique France Victime 48, avec 2 juristes, donc qui travaillent. Là, on travaille avec le parquet, le tribunal de demande. Et puis enfin, on a Place au Blé, les locaux qui correspondent à l'accueil en maison relais. Alors là, c'est vraiment du logement, donc pour différencier hébergement et logement. Donc là, les personnes sont sous-locataires de l'association, mais par contre, elles sont sur de la durée.
D'accord.
Voilà, beaucoup plus.
Très bien.
Et puis n'oublions pas, bien évidemment, toutes les fonctions support qui sont indispensables. Les techniciens pour entretenir les logements et puis comptabilité, secrétariat, bien évidemment.
Et quant à vous, Nicolas Trottoin, la Ligue, pareil, c'est pas qu'une association qui s'occupe d'accueillir des demandeurs d'asile. À la base, d'ailleurs, c'est même, on peut dire que c'est pas ça la vocation première. Est-ce que vous pourriez rappeler l'histoire un peu de la Ligue de l'enseignement ?
Oui, c'est une histoire qui est compliquée, enfin qui est compliquée,
un peu longue surtout.
Qui est un peu longue, voilà. 1866, un petit peu partout en France, on accompagne l'école de la République à se mettre en œuvre sur tout le territoire national. Donc une fédération par département, une union régionale par région. Voilà, des fédérations qui sont autonomes, qui sont des associations, hein, de type fédéral, à peu près 122 associations adhérentes et 4400 membres. Donc des actions qui vont de la culture, du loisir, de la citoyenneté, en passant par de la formation. Et puis, accessoirement aussi, un travail autour de cette citoyenneté qui, pour nous, est quand même plurielle. Donc l'accueil de toute personne, quelles que soient ses origines, hein, c'est ce qu'on devrait normalement faire dans notre pays. Donc on accueille des gens qui peuvent être en situation difficile, délicate. On a eu donc depuis 2016, à la demande donc de l'État, une demande d'accueillir des Syriens et des Irakiens qui venaient du démantèlement de Calais. Voilà. Donc ça a démarré avec cette première expérience qui s'est faite au Moulin de la Farelle et qui progressivement nous a amené à développer ce type d'action d'accueil. Voilà. Un accueil qui est pas spécifiquement lié au social, hein, qui est vraiment une forme d'intégration de ces publics-là avec les moyens qu'on nous donne, mais qui est pas du tout évident.
Vous avez anticipé ma question suivante, puisque c'était justement ça. Depuis quand, en fait, l'évolution de vos actions, du coup, on va retomber sur vous, Corinne Sauvion, à La Traverse. Depuis quand vous avez pris en charge cet accueil d'urgence ?
Alors, les demandeurs d'asile, donc l'HUDA, hein, pour dire le jargon, c'est 2012.
Okay.
Et par contre, effectivement, On a ensuite été, comme pour la Ligue en 2016, effectivement sollicité alors pour ce qu'on appelle les centres d'accueil et d'orientation, CAO, suite au démantèlement de Calais. Mmh. Donc ça, ça a duré jusqu'en 2018-2019. Et ensuite, à nouveau, on arrive sur plutôt de l'hébergement d'urgence de demandeurs d'asile, puisque les politiques changent aussi, les publics, hein, et les financements, parce que mine de rien... En fait, sur l'hébergement d'urgence, on est moins bien financé que lorsqu'on fait du centre d'accueil et d'orientation. Voilà, donc nous, en fait, on a aujourd'hui 30 places pour accueillir donc ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, qui sont donc des logements à la fois sur Mende et Marvejols.
Et donc, du coup, c'est l'État qui vous a mandaté, en fait, on peut dire ça comme ça?
Alors, c'est l'État qui nous finance. Ouais. Par contre, au niveau des orientations, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc nous, en fait, on appartient à un réseau national qui s'appelle le DIANA, qui est un répertoire, on va dire, national, et qui centralise en fait toutes les demandes d'asile. Ouais. Et en fonction des places qui sont disponibles, donc on nous demande, nous, en tant qu'opérateurs, de dire... sur les 30 places qui nous sont allouées, lesquelles sont disponibles, à quel endroit, etc. Et en fonction des profils des demandeurs d'asile, on nous oriente en fait des personnes. Donc ça, c'est l'OFI en fait qui est sur Montpellier, enfin voilà, Paris.
Parce qu'on peut aussi citer, il n'y a pas que vos deux associations qui s'occupent aussi d'accueillir des primo-arrivants. On peut citer Aurore ou encore France Terre d'Asile. Qui gère notamment le
CADA.
Voilà, le CADA, donc le CADA qui est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est donc c'est vers Langogne, c'est à Chambon-le-Château.
Avec une antenne sur Langogne, oui.
Voilà, avec une antenne sur Langogne. Et donc voilà, en fait, finalement, c'est les demandeurs d'asile, on les oriente. Eux, ils choisissent pas arriver sur un territoire. Non. Je veux aller dans telle ou telle structure. C'est en fonction des besoins, des capacités d'accueil de chacun.
C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, par exemple, là, on reçoit un mail en nous disant, bah voilà, telle personne est dans telle association sur Montpellier ou sur le trottoir, parce qu'il faut pas rêver. Hein. Nous, en Lozère, on peut les héberger, mais dans les grandes villes et dans la plupart des territoires, ce sont des gens qui sont à la rue. Réalité, hein. Avec des enfants, enfin voilà.
À l'hôtel, à la rue, un peu partout, quoi.
C'est ça. Et c'est vraiment important de l'intégrer parce que, voilà, nous, on le voit pas en Lozère, mais dès qu'on sort du département, quand même, ça, c'est des réalités. On essaye d'éviter, vu justement les orientations, vous en parlez, il faut aller désengorger Paris ou la banlieue parisienne. C'est vrai que, du coup, on va recevoir sur nos départements des personnes qui vont arriver et pour lesquelles on n'aura pas forcément de place. Donc peut-être il faut aussi s'attendre à des situations un petit peu plus complexes. Voilà. Mais donc voilà, la personne, nous, on reçoit un mail de l'OFI en disant, voilà, telle personne, donc... va arriver en Lozère. À quelle date vous pouvez l'accueillir, quel jour, et voilà.
Entendu. Ouais. On va parler un peu plus tard de justement les moyens qui sont mis à votre disposition pour avoir à charge cette mission. Mais déjà, on va rester un peu d'abord dans le global. Combien de personnes ça représente depuis que vous... Donc vous, depuis 2012 à la Traverse, et vous, depuis 2016 à la Ligue de l'Enseignement, ça représente combien de gens accueillis ces dernières années?
Alors nous on a 30 places, oui. Voilà, sachant que on a des 20 places de personnes qu'on dit isolées, c'est-à-dire que la plupart du temps on accueille des hommes seuls, plutôt jeunes, et puis 10 places famille, donc ça veut dire un couple avec deux enfants, trois enfants, voilà. Donc 30 places à l'année. Là sur 2022, j'ai vu qu'on avait une file active de 55 personnes, voilà, grosso modo.
Ok. Et quant à vous, à la Ligue ?
Alors nous, à la Ligue, en 2016, on a accueilli un premier train de 65 personnes environ, suivi d'un deuxième groupe. Donc c'est à peu près, dans le cadre du CO qui avait été demandé par l'État, c'était à peu près une centaine de personnes qui ont été accueillies entre 2016 et 2019. Et ensuite, à partir de 2019, donc là, c'est plus l'État, c'est le département. Puisqu'il faut savoir qu'il y a une loi pour les personnes qui se disent ou qu'on pense être mineures. Donc c'est la prise en charge faite par l'ASE. Hein.
Donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance.
Voilà, l'aide sociale à l'enfance qui, elle, est gérée par le département. Donc en fait, c'est l'État confie cette responsabilité à partir du moment où on est mineur ou reconnu mineur par un tiers. On doit être mis à l'abri. Donc on a eu cette mission qui était financée par le département et pas par l'État, avec une petite partie sur les 5 premiers jours financée par l'État. Mais ça, c'était vraiment une mission qu'on a mise en œuvre au chalet du chapitre avec... Au début, la mission était autour de 10-12 jeunes en accueil dès le mois de mai 2019 et s'est avéré être de plus de 70 personnes autour de l'automne 2019 jusque là en fin 2022, puisque cette mission, nous l'avons arrêtée avec le département. Oui. Pour plusieurs raisons, on pourra en parler d'ailleurs, mais on a passé à peu près 400 jeunes, voilà, entre 2019 et 2022, sur de l'accueil.
Mais tous ces jeunes, ils sont arrivés, il y en a peut-être certains qui sont passés sous les radars, entre guillemets, ou ils ont tous été envoyés par d'autres structures ?
Alors, nous, les jeunes qu'on reçoit ne sont pas envoyés par des structures. Ce sont des jeunes qui sont en migration, qui venaient soit directement d'Italie, passant par Marseille, soit qui venait du Pays Basque en passant par l'Espagne, qui remontait et qui nous était renvoyé soit par des relations, soit par du bouche à oreille, soit parfois par hasard. Hein. On a reçu des jeunes vraiment par hasard qui ont pris un train et qui sont arrivés à Mende. Et là, ils descendent du train, donc ils vont souvent...
chez nous.
Voilà.
Ils viennent à la gare, en fait.
Ils viennent à la gare.
Oui, c'est à côté.
On est à côté. Ouais.
Voilà. Et du coup, bah, y avait cette relation déjà avec la traverse pour nous renvoyer ces jeunes mineurs, chaque fois qu'ils sont mineurs, puisqu'on avait cette fonction-là. Et sinon, c'était par la police nationale, la gendarmerie, qui les récupérait au bord de la route ou des fois dans les rues. Hein, voilà.
Quelle est leur situation à ces demandeurs d'asile de manière pareille, un peu en moyenne, quoi, j'entends. C'est-à-dire, c'est plus des hommes, des femmes seules, c'est plutôt des familles. Ça varie selon les années. Est-ce qu'on peut tirer...
Alors, ce qui nous concerne, nous, à la traverse, effectivement, c'est... les trois quarts, ce sont des hommes. Déjà, les places isolées, donc ce sont des hommes très jeunes. C'est 25-30 ans. On a un gros pourcentage, alors surtout ces deux dernières années, d'Afghans, bien évidemment. Après, on a regardé là sur 2022, donc une douzaine de nationalités différentes, mais ça peut être effectivement le Mali, ça peut être, enfin tout ce qui est Afrique subsaharienne. Et donc des jeunes hommes, effectivement, et puis quelques familles. Mais vraiment, c'est beaucoup plus à la marge.
Des personnes seules.
Oui, et puis c'est pas facile de quitter son pays. Et c'est vrai que ça coûte très cher. Donc les jeunes, ils ont des... Enfin, au niveau des Afghans, c'est peut-être moins vrai, mais sur l'Afrique, il y a des patients. Enfin, ils ont des parcours de vie qui sont pas... C'est pas joli, joli. Mm-hmm. Enfin, c'est des personnes qui arrivent, qui sont assez traumatisées du parcours qu'ils ont eu de migration. Voilà, donc, mais nous, c'est à peu près cette proportion-là, ouais, 75-25 entre les hommes et les femmes, et principalement des hommes jeunes.
Entendu, Eric.
Justement, ils en parlent de leur parcours, de comment ils sont arrivés, de tout ça, ou est-ce qu'ils le gardent
Alors, il y a deux choses. Y a la première, c'est qu'ils sont obligés de raconter, de faire un récit, effectivement, de leur parcours pour pouvoir justifier leur demande d'asile. Et ça, après, ce sont des traducteurs, des avocats, etc., qui, et puis au niveau des services de l'État, hein, qui vont explorer la véracité des dires, la véracité des papiers qui sont présentés. Donc c'est très long, en fait, une demande d'asile. Et puis ensuite, eh ben, il faut avoir confiance aussi. Il faut savoir qu'on est sur des échanges avec des cultures très différentes. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que nous, ben, on communique facilement, les hommes, les femmes, etc. C'est trop facile. Il y a des pays, c'est pas évident de discuter avec une femme, par exemple, ou simplement le fait qu'on arrive dans une association. C'est des pays où il y a les militaires d'un côté, et puis voilà, la population. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des modèles où il faut se décaler un petit peu. Ça demande, moi je trouve, on devrait intégrer une formation de géopolitique obligatoire pour comprendre les enjeux de guerre, de migration, etc., pour être sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, en fait, quand on accueille ces personnes. Il faut savoir que ce ne sont pas des gens qui comprennent rien, en fait. Hein, en plus, avec les réseaux sociaux, enfin, aujourd'hui, il y a quand même énormément de communication. Les gens voient ce qui se passe quand même quand ils sont dans leur pays. Donc, ils savent. Alors, ils arrivent avec du rêve. Et ils peuvent parler des troubles qu'ils peuvent vivre dans leur pays. Mais il faut savoir quand même qu'ils fuient la guerre, ils fuient des choses qui ne sont pas drôles. Voilà, tout simplement.
Alors c'est vrai que nous, par contre, on a une expérience qui est un peu différente, mais qui est similaire, mais qui à la fois est un peu différente. C'est-à-dire qu'on a à la fois ces MNA qu'on a eu jusqu'en 2022. Là,
MNA, mineurs non accompagnés.
Voilà, mineurs non accompagnés. Pardon. Et on parle beaucoup comme ça dans ce milieu, mais bon, après, les enseignants parlent dans leur jargon, les sociologues, tout le monde le fait. Voilà, désolé. Du coup, on a aussi une mission par l'État qui était l'accueil donc des Ukrainiens, là, depuis le début de la guerre. Donc ça, c'est une mission d'État avec la possibilité d'accueillir en gros 30 Ukrainiens, ce qu'on a fait depuis février 2022, avec un premier arrivage de 35, puis un deuxième arrivage après en septembre d'une trentaine de personnes, dont 9 sont encore présents hein, sur nos locaux. Donc là, il y a eu tout un travail d'approche. Alors c'est vrai qu'entre les jeunes qui arrivent, qui ont des fois des papiers, des fois pas de papiers, il y a toute une procédure qui est mise en œuvre pour connaître leur parcours, leurs origines, et puis surtout leur âge, puisque s'ils sont déclarés majeurs, ben ils restent pas chez nous, quoi. C'est-à-dire ils tombent sous l'effet d'une autre loi qui est là de demandeurs d'asile, alors qu'ils sont plus du tout protégés par l'ASE à ce moment-là. Sur ta question de est-ce qu'ils parlent, c'est très variable en fait. Ça dépend vraiment leur parcours dont tu as parlé, Corinne, hein, qui est pour certains, alors ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, ça a été pour certains extrêmement difficile, très très dur. Moi, j'ai eu plusieurs fois des discussions avec eux, quelques écrits, parce qu'en fait, ils avaient besoin de parler, quoi. Mm-hmm. Mais parce qu'ils parlaient le français. C'est vrai que d'autres parlent en anglais.
Il y a la
barrière de la langue. La barrière culturelle dont tu as parlé, Corinne, est vraiment très, très importante, hein. Surtout si on est une femme en face, etc. Mm-hmm. C'est plus compliqué parfois. Et il y a aussi la façon d'accompagner ou d'encadrer ces personnes, quoi. Sur les Ukrainiens, il y a un vrai problème de langue. Donc là, il y a eu des traducteurs qui ont été proposés pour venir nous aider un petit peu. Ça a été un peu plus facile, d'abord parce que c'est une communauté ukrainienne qui est arrivée assez massivement. Ils étaient 30, donc ils se sont connus, ils se connaissaient déjà avant de venir. Mm. Donc quand ils sont arrivés chez nous, au deuxième du chapitre, ça faisait comme une grosse...
Il n'y avait pas de problème
d'isolement. Et la parole était assez libre et elle était nécessaire, parce qu'ils venaient de vivre un moment qui était quand même très complexe.
Ouais. Je propose qu'on fasse une petite pause avec toi, Cyril, donc on écoute ta chronique.
Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui, une petite chronique qui va vous mettre de bonne humeur, parce qu'on va parler d'un film côté duquel vous n'avez pas pu passer, la communication autour était juste débordante. Je veux bien sûr parler du film de Super Mario. Donc c'est un film d'animation qui est sorti le 6 avril, donc c'est très récent, qui est réalisé par les studios Illumination et avec Nintendo. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'animation, c'est plus que propre. C'est fluide, c'est coloré, bon, jusque-là, c'est fidèle à l'esprit de Mario. De ce côté-là, le film, il n'y a pas de souci, il est irréprochable. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu du synopsis. Donc on suit les plombiers Mario et Luigi qui vivent modestement de leur activité de plombier à Brooklyn. D'ailleurs leurs affaires tournent au ralenti et c'est lors d'un événement que je ne vais pas spoiler que le duo se retrouve séparé dans un univers fantaisiste qui est donc celui qu'on retrouve plus dans les jeux vidéo. Et si Mario est plutôt chanceux et se retrouve directement dans le royaume des Toads, des espèces de petits champignons humanoïdes tout gentils vivant dans le royaume champignon, gouverné par la princesse Peach, Luigi, le frère, lui, a beaucoup moins de chance et se retrouve directement chez le grand méchant du film, donc Bowser. Ici, le but pour Mario ne sera donc pas de sauver la princesse, contrairement au jeu, mais de sauver son frère et également le royaume champignon au passage de l'invasion de Bowser. J'en profite donc aussi pour dire que les personnages sont plus que fidèles à comment ils sont dits dans les jeux, dans leur écriture, et qu'on découvre d'ailleurs une princesse Peach beaucoup plus femme forte, et c'est une personnalité qu'on aimerait bien voir plus souvent dans les jeux, parce que c'est quand même vachement fun.
Et donc, femme forte, c'est fun.
Ouais, c'est fun, ça rime, enfin, femme forte, c'est fun, ça passe. En tout cas, comme vous pouvez le voir, bon, le scénario, ça tient sur un post-it, mais finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce qu'on va pas l'oublier, c'est avant tout un film qui est principalement pour les enfants, mais bon, également aussi pour toutes les personnes qui adorent l'univers des deux plombiers moustachus. Donc les références ne manquent pas, que ce soit dans l'esthétique, dans l'arrière-plan, avec des petites références subtiles, et bien sûr dans les musiques, avec des arrangements des thèmes les plus iconiques de la licence qui passent très très bien. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon film, j'ai passé un très bon moment devant. Et il a tout pour être un de ces films de confort qu'on regarde un petit peu quand il fait mauvais temps. Et je vois que vous voulez dire quelque chose.
Non, je voulais juste te dire que je trouve que ta présentation, elle est chouette parce qu'il y a un vrai lien en fait avec ce dont on parle.
Oui, t'as trouvé le lien.
Ah ouais.
Moi, j'étais en train de le chercher.
Moi aussi.
En fait, si vous prenez les prénoms, c'est deux Italiens, deux immigrés italiens aux États-Unis. Yes. Et pourquoi ils ont migré aux États-Unis ? Pourquoi aujourd'hui l'immigration, elle va dans trois pays principaux, qui sont les premiers pays au monde, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Parce que c'est là en fait où le niveau de vie est le plus haut et où on peut gagner le plus d'argent dans un minimum de temps. Et les migrants italiens sont partis parce que dans leur pays il y avait un vrai problème économique, de guerre, etc. Ils sont partis aux États-Unis aussi pour ces questions-là, quoi. Donc je trouvais le lien vraiment chouette, même si c'est pas fait exprès.
Ah, c'est pas du tout fait exprès, non.
Mais Mario, ben oui, mais Mario, c'est pas voilà.
Mais oui, c'est vrai.
C'est pas John, quoi.
C'est vrai. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce sera vraiment ce genre de film que vous pouvez regarder en confort. Voilà, il pleut dehors, vous avez juste envie de vous détendre, de vous mettre un petit peu de baume au cœur. C'est vraiment l'idéal pour ça. La seule chose que je lui reproche au film, par contre, c'est que voilà, il va vraiment très très vite en besogne. Le film est court, il dure 1h30 et bon, malgré tout, il arrive quand même très bien à raconter tout ce qu'il veut raconter dans ce temps-là. Mais voilà, le rythme est effréné. Le film aurait peut-être dû être un chouïa plus long pour qu'ils prennent davantage leur temps. J'avais l'impression que le film, il courait dans tous les sens. Il me laissait jamais vraiment trop le temps de reprendre mon souffle. Et bon, c'est dommage d'autant plus pour un film qui est aussi aussi coloré. Et puis voilà, il y a des fois vraiment des plans très jolis. Des fois, je me disais, oh, ça fera un joli fond d'écran, par exemple. Mais voilà, ça mis de côté, si vous avez des enfants ou que vous adorez l'univers de Mario, je peux que vous le conseiller, vous passerez un moment vraiment agréable, plein de légèreté. Et puis voilà, vous ressortirez avec une envie débordante de rallumer votre console et de jouer au premier titre qui vous tombera sous la main.
C'est ce que tu as fait ?
Exactement.
Voilà. Il est encore diffusé, on peut le voir par exemple à Mende.
Oui, là je crois qu'il est encore pendant toute la semaine, donc il y a le temps.
Allez, jetez-vous sur vos écrans, les grands écrans.
Les grands écrans. Et les petits après peut-être.
Merci beaucoup Cyril.
De rien.
On poursuit notre conversation, donc merci Nicolas d'avoir fait le lien. On parle à travers Mario et d'ailleurs à travers toute la culture, je crois, de questions d'immigration, puisque finalement c'est un mouvement qui est intemporel et c'est comme ça aussi que l'humanité se définit. On va repartir un peu plus précisément sur vos deux structures pour savoir finalement les gens que vous avez accueillis depuis le début que vous en accueillez, combien de temps en moyenne elle reste auprès de vous et combien de temps ça dure en fait l'intégration en France ou si elles repartent d'ailleurs, je ne sais pas quels sont les parcours.
Alors, parler pour la France, moi je ne le ferai pas, je ne sais pas.
C'est pour ça qu'il vaut mieux axer sur vous.
Par contre, en ce qui concerne la structure, c'est entre le moment où la personne arrive et la durée de sa demande d'asile, ça peut aller de 4 mois à 2 ans.
C'est ça, parce qu'en fait, oui, ça dépend en fait de la demande d'asile.
C'est ça.
J'ai des petits chiffres pour la France actuellement, enfin en tout cas l'an passé. Il faut que je les retrouve, attendez.
En 2022.
Oui, en 2022. Voilà, donc selon l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en 2022, les délais moyens des demandes d'asile, c'était entre 5 mois et 8 mois, entre 2020 et 2021. Du coup, c'est des chiffres qui remontent encore aux années d'avant. Mais le gouvernement a pour objectif d'avoir 2 mois de délai. Est-ce que pour vous, ça, c'est atteignable à l'heure actuelle ?
Irréalisable total.
Sur les MENA, par exemple, c'est 5 jours.
Hein. Ouais.
C'est irréalisable.
L'objectif du gouvernement, les 5 jours.
Ouais. Alors, il y a une prise en charge, d'ailleurs, hein, qui est faite par le gouvernement, par l'État. Mais pour les équipes en place, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faudrait une cohorte d'éducateurs, de conseillers, d'assistants, de traducteurs pour arriver à faire les examens, quoi.
Et c'est pourquoi ? C'est aussi parce qu'il manque finalement les services administratifs, ça on le sait, en France c'est un peu plus
compliqué. C'est surtout qu'il faut laisser le temps aux personnes d'expliquer pas de prouver, même si on leur demande de le prouver, mais déjà d'expliquer pourquoi leur demande d'asile, de récupérer tous les documents nécessaires. Et comme disait effectivement Nicolas, on a besoin de traducteurs pour traduire tous ces documents. Il faut trouver les avocats. Il y a tout le temps de la démarche administrative. Et en France, on est quand même les champions de, à ce niveau-là. On n'a plus, plus personne dans les administrations pour accueillir les personnes, pour instruire les dossiers. Enfin, moi, je l'écoutais encore ce matin sur Culture. C'est vrai. Déjà, pour nous, en tant que personnes, citoyens français, alors pour un demandeur d'asile, c'est encore pire. Et sachant qu'en plus, bon voilà, il faut trouver les avocats, il y a plein d'associations qui accompagnent, mais ensuite, c'est pas parce que une demande d'asile n'a pas abouti que derrière ça s'arrête. Il y a des recours qui sont positionnés. Il y a des gens qui ont des demandes d'asile pour du soin, par exemple. Nous, on en a beaucoup en fait pour des problèmes de santé, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille. Donc tout ça, ça prend du temps. Et voilà, c'est important quand même de comprendre pourquoi les gens sont là. Enfin, il faut pas rêver, ils s'abusent pas, quoi.
Et c'est le premier niveau d'intégration. C'est-à-dire que si ça se fait mal, en fait, la suite est complexe. Voilà.
Notamment pour les mineurs.
Alors pour les mineurs, oui, parce que des enfants, ça reste pour beaucoup des enfants, en fait, qui arrivent. Ils ont une représentation, ils ont un idéal, ils s'imaginent des tas de choses. Alors, en sachant que pour beaucoup, la France n'est pas leur pays. De fin de trajet, hein. Ils se retrouvent. La France en arrive, je sais plus en quelle position, mais on est très très loin derrière. Hein. Les principaux.
On n'est pas une destination d'accueil.
On n'est pas une destination de rêve, donc ça, il faut vraiment le redire. Et que l'immigration sauvage, tout ça, en fait, il y a beaucoup de fausses vérités. C'est beaucoup de fantasmes et beaucoup de peurs, en fait.
Et je l'amenais en introduction, la volonté du gouvernement, notamment à travers cette. Qu'on appelle ça là, mince. J'ai oublié ma feuille. Voilà, cette circulaire ministérielle, pardon, qui veut mettre en place des sas d'hébergement, ils ont appelé ça. Donc c'est pour un peu territorialiser les demandes d'asile. Est-ce que pour vous ça va dans le bon sens?
Non.
Non, pourquoi?
Parce qu'il faut qu'on traite des humains comme des humains, et au même titre que tout le monde, en fait. Et je ne crois pas que ce soit en faisant des SAS, comme les centres de rétention administrative, dans lesquels on accompagne des personnes avant de les faire repartir vers leur pays. Ce n'est pas des endroits... Enfin, là, je dévoile rien. On voit bien toutes les associations qui viennent défendre les droits de l'homme et... etc. Je veux dire, il faut vraiment qu'on puisse accueillir les personnes qui sont dans ces demandes-là dans un délai qui soit correct, dans des conditions qui sont correctes. Et effectivement, on essaye de comprendre si leur demande d'asile, où elle doit aboutir ou comment elle va aboutir. Mais on prend du temps et on n'enferme pas des gens comme ça dans des centres où on ne les sort pas de périphérie, de ville où on ne veut plus les voir. Enfin, c'est terrifiant, moi, je trouve, ce qui se passe.
Et cette volonté, parce que c'est un peu ça le discours qu'il y a, c'est on va accélérer les démarches pour finalement mieux accueillir. C'est un peu ça aussi qu'on...
Oui, pour mieux accueillir ou mieux faire partir.
Et finalement, vouloir accélérer, ça veut aussi dire on met aussi plus facilement
de
côté.
Tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'éducation, de communication?
De qui?
Non, mais justement de la population qui croit justement qu'il y a plein de migrants qui vont arriver, qui vont...
d'information, de désinformation,
ou
beaucoup.
De désinformation, oui.
Moi, je suis un peu de l'avis de... Je suis même beaucoup de l'avis de Corinne. Je pense qu'on traite d'humains. Il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que personne décide de naître dans les pays... il faut aussi considérer, mais ça, c'est un journaliste qui le disait il y a quelques jours, sur France Culture, il disait, mais on n'imagine pas la chance qu'on a de naître en France ou en Europe, dans un des pays européens. On ne décide pas de l'endroit d'où l'on est. Du coup, des conditions sociales dans lesquelles on arrive. Quand les gens partent de leur pays, alors je ne vais pas refaire l'histoire et pourquoi, mais en général, c'est pour essayer de mieux vivre, de survivre, quelles que soient les conditions. Et du coup, quand on traite de ces personnes, ce ne sont pas des numéros, ce n'est pas un problème, en fait. Au contraire, c'est une solution. On sait qu'en France, pour maintenir le niveau de vie, le PIB et le niveau de nos retraites, on a besoin de populations qui viennent de l'extérieur, quelles qu'elles soient. Et c'est une plus-value. L'Allemagne, par exemple, au sortir de la guerre, a refait toutes ses infrastructures avec l'immigration. S'il n'y avait pas eu ces afflux-là, en fait, l'Allemagne n'en serait pas où elle est aujourd'hui. Et la France a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin... au-delà de ça, quand on accueille les gens, c'est pas un problème. C'est les considérer comme des êtres humains et de prendre le temps de mettre ces politiques sociales en place. Alors ça coûte un peu cher au début, parce qu'effectivement, elle a raison, il faut des juristes, il faut de l'administratif, il faut des infrastructures. Mais après, c'est de l'argent qu'on gagne. Ces gens-là, ils produisent plus, ils participent plus à la vie par leur contribution sociale et économique et par leur intégration que ce qu'ils ont coûté à la fin de leur vie. Donc c'est tout un discours qu'il faut, tu as raison de le dire, qu'il faut déconstruire pour que les gens comprennent qu'en fait c'est une chance qu'on a aujourd'hui et que le fait qu'on ne soit pas un pays attirant, ben en fait c'est hyper dommage. Mmh. Mais que ces jeunes-là, tous ceux qu'on a reçus sur les 400, il y en a peut-être 300 qui avaient envie de rester en Lozère. C'est 300 qui avaient envie d'avoir un métier. 300 qui avaient une envie énorme d'apprendre et de partager. Moi, j'ai jamais vu des jeunes, on a accueilli 70 jeunes, on n'a eu aucun problème. Alors que 70 adolescents dans un établissement, je peux vous dire que c'est compliqué, surtout sur des centres de vacances, parce qu'on l'a déjà fait. Donc voilà, c'est...
Oui, il y a des gros fantasmes, en fait, hein, qui sont entretenus aussi. Et, enfin, nous, c'est un régal et à chaque fois, c'est une grande découverte. En plus, on fait énormément de choses avec les personnes parce qu'il faut savoir que là, quand elles arrivent, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont le droit à rien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas d'aide. Enfin, voilà. Oui. Et après, il y a toutes les associations caritatives. Il y a nos structures qui les accueillons. Mais elles n'ont pas le droit, en fait, de... Elles voudraient, par exemple, travailler. Elles voudraient être bénévoles dans des assos. Alors ça commence à se faire. Mais encore une fois, il faut déjà comprendre comment ça se passe.
Voilà, parce que j'allais vous demander, quand on est en attente de demande d'asile, on n'a le droit à aucun service ou ni de travailler. Alors parce qu'on est dans une espèce de...
Bah, d'entre deux, justement, ouais. De ce côté intemporel, ce sas, là. Du coup, il y est, ce sas, finalement. Et il est informel, on n'arrive pas à le capter. Mais c'est vrai que c'est ça. Donc, beaucoup d'entraide... Et puis les assos caritatives qui viennent aussi. Et puis bon, bien évidemment, quand il y a des enfants, il y a les aides du département, il y a quand même des choses qui existent. Hein. Mm-hmm. Mais ce n'est pas du tout confortable. En tout cas, les gens ne peuvent pas aller travailler, par exemple. Mm-hmm. Et donc, pouvoir répondre à leurs besoins. Nous, on les
et
voit,
même participer à des travaux qui pourraient convenir pour une association. C'est du travail déguisé. Donc, on est aussi obligé de faire attention. Moi, je voulais revenir juste... aussi sur l'idée que là, il y a eu quand même deux poids, deux mesures. J'ai dit à une certaine réunion, à un moment donné, un peu violemment, peut-être ça a froissé des gens, mais je pense que entre le fait d'accueillir des blacks musulmans et des blancs orthodoxes, c'était pas bien de
vous
faire
parlez
cette...
Des Ukrainiens, là, du coup.
Oui, des Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que en 2001, on crée donc cette protection transitoire qu'on n'utilise pas du tout en Europe, qui est un outil qui permet justement que les réfugiés, les demandeurs d'asile puissent avoir des droits assez rapidement, des allocations, des aides, une intégration.
Sans passer par la demande de statut de
réfugié. Sans passer par la demande.
Et c'est ce qui a été mis en place pour les réfugiés.
Et c'est ce qu'on a mis uniquement pour les réfugiés ukrainiens en 2021. Mmh. Alors pourquoi on ne l'a pas fait pour les autres ? Voilà, ça c'est un vrai problème qui s'est posé au niveau européen. Sur lequel les pays européens n'arrivent pas à s'entendre. C'est vraiment dommage. Donc, on l'a fait pour les Ukrainiens et c'est super. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Parce que ça a permis rapidement de passer à l'étape travail, à l'étape intégration, à l'étape logement. Et d'aller très vite là-dessus. Parce que ces gens-là, en fait, ils le payent deux fois. Ils le payent parce qu'ils viennent d'un pays où ils ont été meurtris, d'un parcours où ils ont été meurtris. Ils arrivent, ils n'ont pas d'identité en fait. Hein. Ils se retrouvent, ils n'existent pas quoi. Et ils n'ont aucun droit. Et on les met dans un coin en attente pendant, vous parliez tout à l'heure, de 5 jours pour nous jusqu'à 8 mois, 8, 9 mois. Et pendant ce temps-là, ils n'existent pas. Mmh. Et c'est hyper dommage parce que c'est un temps perdu, surtout à l'adolescence, mais même à l'âge adulte. Voilà. Et ça, c'est incompréhensible pour des associations, en fait. Mmh. Ce fonctionnement-là, on ne le comprend pas. Et donc, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a vraiment deux poids et deux mesures et qu'on a peur de ce qui nous ressemble le moins. Voilà.
C'est ça. Mais qu'il ne faut pas pour autant jeter la pierre sur, finalement, ces réfugiés ukrainiens qui ont pu bénéficier de ces aides. Et c'est plutôt qu'il faut s'en inspirer.
Bah,
voilà, c'est
rien.
Ça aussi. Parce
non, non,
il ne
faut pas,
faut
pas
les
rendre.
Faire
faut
noir
pas,
et blanc, faut,
non, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Bien sûr que non. Mais par contre, pour nous, associations... C'est vraiment difficile quand on accueille sur un même lieu des personnes qui ont des possibilités différentes, parce qu'effectivement, il y a une incompréhension sur les statuts, et c'est nous qui sommes un peu les médiateurs quand même pour essayer de maintenir l'équilibre, parce que c'est vrai que c'est pas non plus évident de faire en sorte qu'il n'y ait pas de jugement, de jalousie, d'appréhension, enfin voilà.
Pour nous, ça a été le choix du chapitre, ça a été aussi de conserver sur ce lieu-là de la mixité sociale, d'accueillir des classes de découverte, d'accueillir des groupes, pour montrer aussi aux gens qu'on peut vivre ensemble et qu'il n'y a pas de différence en fait. Et les gens qu'on a reçus ont été étonnés à l'accueil. Et ensuite, on rencontrait des amis. Et ça, c'est chouette quand même, parce qu'on a pu faire des choses extraordinaires. Et surtout de montrer, pendant 3 ans là en tout cas, et on continue avec les Ugandais, de montrer qu'en fait, cette mixité, c'était la réponse. Voilà. Et qu'il faut à tout prix que dans notre pays, on comprenne que la mixité sociale, c'est la vraie réponse à toutes ces questions dont tu parlais aussi, hein, de compréhension, de rapport aux autres, de démystification. Parce qu'il y a vraiment... voilà.
Eric, je propose qu'on fasse une autre petite pause avec ta chronique, on t'écoute.
Alors, peut-être que comme moi, vous vous êtes étonné de voir le pape en doudoune ou Emmanuel Macron en train de faire les boueurs. Mais en réalité, ce sont des fausses photos. Je vous la prends certainement, mais c'est aussi notre rôle à 48FM de vous éduquer et de dénoncer les fake news. Ainsi, je peux vous l'affirmer, ces photos ont été réalisées grâce à des intelligences artificielles. Elles sont fausses. Après, j'avoue, j'ai eu la puce à l'oreille quand on m'a montré une photo de Clara en train de boire un verre d'eau. Là, tout de suite, je me suis dit, il y a un truc.
Impossible.
C'est ça. Et en fait, ce truc, c'est ChatGPT, une intelligence artificielle qui défraie la chronique. Cette machine est en effet capable d'écrire à peu près sur n'importe quel sujet ou d'arranger une photo comme celle de Clara. Alors, il suffit de demander et voilà qu'elle démarre au quart de tour. En réponse à vos requêtes, le texte apparaît sous vos yeux, correctement rédigé, compréhensible et même pire, plus pertinent que la plupart de mes chroniques. Et non, je plaisante. Même ChatGPT ne peut pas être plus pertinent que mes chroniques. Mais bon, les journalistes, les auteurs et les profs ont commencé à en perdre leurs cheveux. Enfin, pour ceux qui en ont encore. Alors la vraie question est de savoir si ChatGPT va nous grand remplacer. Parce que si on y réfléchit bien, l'IA, c'est un peu comme notre cerveau, mais en puissance, beaucoup. Ainsi, l'IA est capable de traiter des informations et de prendre des décisions en fonction de ces informations, de ce qu'on lui demande d'exécuter, comme tâche. Mais contrairement à notre cerveau, et c'est là que l'intelligence artificielle est pour le moment moins évoluée que notre cerveau, c'est qu'elle, elle ne se trompe jamais. Voilà, c'est un peu comme ce pote que vous avez certainement dans votre entourage, qui a toujours une réponse à tout et qui en plus s'écoute parler. Sauf que parfois, ses réponses sont parfois aussi pertinentes que les conseils d'Emmanuel Macron pour trouver du travail. Bon, elle peut ainsi être utilisée dans plein de domaines, comme la finance, la santé, la sécurité, hein, les caméras de reconnaissance faciale. Après, faut l'admettre, avec l'IA, on a au moins une oreille attentive. Même quand je ne lui parle pas directement, elle m'écoute, qui n'a jamais parlé d'un sujet, pour se retrouver dans les 10 minutes avec des promotions, des articles traitant de ce sujet sur son smartphone. À ça, on sent plus écouté que quand on demande aux enfants de faire leurs devoirs. Peut-être même que si je leur demande assez fort, ChatGPT est capable de leur faire automatiquement à leur place. Mais pour le moment, il y a une chose que les machines ne peuvent pas faire, c'est ressentir les émotions. Enfin, pour l'instant, parce que si on est capable de créer des machines qui réfléchissent comme des humains, pourquoi demain ne serait-elle pas possible ? Il ne serait pas possible de créer des machines qui ressentent comme des humains. Après, il va falloir faire très attention. Parce que si les machines qui nous ont déjà dépassés pour jouer aux échecs ou au poker, et qu'elles deviennent encore plus évoluées et plus autonomes, et continuent d'apprendre à apprendre par elles-mêmes. Mais bon, le surmoi du smartphone d'un ado prépubère, c'est pas encore pour tout de suite. Non, le plus gros risque, c'est qu'elles vont très rapidement se rendre compte que l'être humain est certainement l'espèce la plus parasite de cette planète, qui détruit tout sur son passage. Et si elles sont bien éduquées, et qu'elles décident de supprimer tout ce qui pourrait porter atteinte à la vie sur Terre, alors là, attention à ce que la réalité ne rattrape pas la science-fiction.
De quoi trembler, hein. C'est vrai qu'on doit peut-être plus avoir peur de ces robots-là, hein, que de toute autre chose. Merci, Eric, pour ta chronique. Je propose qu'on poursuive, il nous reste 10 petites minutes. Alors, il faut être assez bref, mais on va faire en sorte. Déjà, on l'a un peu amené, et je voulais savoir, les gens que vous avez pu accompagner, est-ce que la plupart sont restés en Lozère, ou au contraire, ils préfèrent partir de Lozère ?
Oh non, alors il y en a qui viennent en Lozère et qui n'ont pas du tout envie d'être là, c'est clair, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Y a des personnes qui arrivent souvent de très grandes villes, donc avec ce que nous, on peut apprécier quand on aime être citadin, avec la variété, l'offre culturelle, etc., etc. Donc bon, ceux-là, ils font en sorte de pas rester. Alors ça dépend aussi de leur de l'aboutissement de leur demande d'asile. Mais moi, je trouve que quand même, quand je regarde autour de moi, quand je vais dans les commerces, je croise des parents, etc., je trouve quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont restées et qui se sont vraiment bien intégrées. Il faut savoir qu'avoir des enfants, aller à l'école, ça, c'est une des premières choses. Quel que soit, par contre, le statut des personnes et notamment des familles, inscrire les enfants à l'école, c'est quasiment la première démarche qui est faite. Vraiment, c'est de protéger les enfants. Et puis pour leur faire oublier tout ce qu'ils ont vécu comme traumatisme hein, au niveau de la migration. Mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que, comme pour nous, hein, c'est ça, on parle des mêmes gens que nous, en fait. Et ben, aller à l'école, c'est rencontrer d'autres parents et du coup, c'est rentrer dans des activités.
C'est un très bon vecteur. Hein.
C'est des super vecteurs.
Et c'est les ambassadeurs aussi de leur pays. Hein.
C'est ça, ouais. Exactement. Et puis après, c'est de participer à des activités sportives. Nous, on a énormément de jeunes qui sont très demandeurs. D'ailleurs, je pense que leur santé mentale... Si on peut le dire comme ça, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important.
Ouais, c'est indispensable.
Ils font beaucoup, beaucoup de sport. Parce que voilà, aller courir, aller jouer au foot, d'ailleurs, on en a souvent hein, dans les équipes de football notamment. Voilà, donc moi, je suis. Ouais, je trouve qu'il. Alors, j'ai pas le pourcentage si c'était la question, mais
non, pas forcément.
Voilà. Par contre, on voit effectivement des personnes qui sont intégrées, comme on aime le dire, en tout cas, qui font partie de la cité, qui travaillent dans plein de domaines différents. Voilà.
Bah, nous, on a les mêmes expériences. Après, c'est des gens qui sont aussi devenus des amis, parce que ces rencontres, faut aussi dire que. Alors, moi, je suis pas un travailleur social. Je suis plutôt un enseignant qui est détaché depuis très longtemps. Et qui a un regard un peu sur le monde peut-être un peu particulier, mais ce qui m'a intéressé de voir, c'est qu'effectivement les gens qu'on a pu accompagner de façon très sérieuse se sont très très bien intégrés aujourd'hui. Ils se sentent bien, ils ont fait leur parcours, ils ont une vie affective, une vie professionnelle. C'est vrai qu'ils occupent des postes souvent que beaucoup d'autres ne veulent pas.
Voilà. Et est-ce que eux-mêmes sont intégrés ou accèdent à des emplois que eux-mêmes avaient envie d'avoir ou pas ? Est-ce que c'est aussi subi quand même ?
Alors, c'est pas toujours évident parce que déjà, il y a des postes qui demandent des équivalences aussi de diplômes. Nous, par exemple, on avait, c'est un exemple qui est assez flagrant en Lozère et qu'on a pu lire aussi dans la presse, mais notamment un médecin. Qui a mis très très longtemps et je crois qu'il n'a pas encore acquis l'équivalence totale de son diplôme dans son pays. Mais effectivement, on a des gens qui auraient envie de faire les métiers qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans leur pays. Mais voilà, après, on a ce souci-là, mais qui par ailleurs acceptent quand même des missions qui ne relèvent pas forcément de leur première compétence. Mais qui par contre ont tellement envie et besoin de trouver un moyen déjà d'être
d'avoir
autonome.
D'avoir une fonction sociale, en fait, là où...
Ça, et puis d'être indépendant, en tout cas, financièrement. C'est pas des gens qui cherchent à être comme ça, accrochés au système, et pas du tout. Mais pas du tout. C'est très malmenant, d'ailleurs.
On peut peut-être, d'ailleurs, rappeler ça. Je pense que ça peut être aussi important, parce que quand on parle d'immigration, l'immigration, c'est très vaste. Ça concerne plusieurs types de déplacements. En France, donc toujours en 2021, c'est le dernier chiffre de l'INSEE là, qui a sorti un rapport le mois dernier, il me semble. En France, la population d'immigrés, donc c'est très vaste toujours, c'est 7 millions aujourd'hui, donc ça représente 10% de la population. C'est certes plus qu'il y a 20 ans. Avant, c'était en 2000, il y avait 4,5 millions d'immigrés, donc c'est une croissance en 20 ans de 53%. Mais il faut dire quand même que la demande d'asile, ou en tout cas les titres de séjour, ils ont certes augmenté, mais pour la plupart, ça concerne quand même des demandes dans le cadre d'études et aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on leur donne leur titre de séjour parce qu'ils vont occuper un emploi et dans ce cas-là, c'est des raisons économiques, quoi, voilà. Et là, vraiment, le côté réfugié parce que conflit ou parce que autre raison un peu plus qu'on a l'impression que c'est les majoritaires, en fait, ça reste une petite proportion de l'immigration en France, en tout cas. Et comme tu disais, Nicolas, la France n'est pas le premier pays que des gens en situation très compliquée qui veulent fuir la guerre ou autre, c'est pas la France qui vise en premier.
Alors, il faut, il faut aussi relativiser, parce que sur les chiffres que tu as donnés, sur les 7 millions de personnes actuellement, il y a quand même 2,5 millions de personnes qui ont le statut de français, hein, qui ont la nationalité française. Donc quand on parle d'immigration, souvent on confond immigrés non ressortissants, voilà, étrangers, et puis français. Dans les 7 millions, il y a 2 millions et demi de français. Voilà. Et puis, dans le reste, il y a aussi tous les étudiants qui viennent en France et qui, eux, en général, n'ont pas de problème après, soit pour repartir dans leur pays, soit pour trouver du travail. Tout à l'heure, tu parlais de ce parcours professionnel. La problématique, elle n'est pas sur les gens qui viennent avec des diplômes. C'est pas du tout celle-là. Ceux-là, ils vont trouver du travail très rapidement. Soit ils construisent leur entreprise, soit c'est ce qu'on voit actuellement avec les Ukrainiens. Par contre, c'est tous ceux qui n'ont pas de parcours professionnel ou universitaire ou technique et qui viennent sans emploi et sans compétences. Et ceux-là, c'est vrai que c'est la grosse majorité, du coup. Et c'est ceux qui vont faire les petits boulots. Alors après, quand ils ont fait ces petits boulots, des boulots que beaucoup ne veulent plus faire aujourd'hui en France, je pense à l'écarissage, je pense à des métiers difficiles, dans tout ce qui est génie civil, etc. C'est compliqué quand même, hein, les bords des routes, etc. Donc, par contre, une fois qu'ils ont accédé à ça, dès qu'ils peuvent accéder à un autre statut, ils y vont. Voilà. Et là, nous, on a embauché quand même 3 Ukrainiens, donc c'est important de le dire, dans nos structures, des gens qu'on avait beaucoup de mal à... des postes qu'on avait beaucoup de mal à pourvoir. Et c'est des gens qui m'ont dit d'entrer, mais les Français, vous êtes fous, vous arrêtez pas de vous plaindre. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut dans ce pays, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on a perdu cette relativité et nos conditions de vie par rapport à ce que les autres peuvent vivre ailleurs, quoi. Mmh.
Question un peu large, mais on va voir, ça va, j'espère, vous inspirer. Au vu là de vous, comment vous les moyens dont vous disposez pour accueillir, en tout cas remplir cette mission d'accueil de demandeurs d'asile, c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui freine concrètement? C'est les moyens dont l'État vous met à disposition? C'est le manque de visibilité? C'est
alors moi j'ai envie de dire on manque de moyens, mais de relations humaines, c'est-à-dire que on manque d'interprètes, on manque d'avocats, on manque de personnel dans les administrations pour aider à faire avancer en fait les dossiers. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup ça, parce que nous, bon, en interne, on a les équipes effectivement de travailleurs sociaux, etc. Mais c'est plutôt dans les démarches, c'est très très long. La santé, enfin, on voit bien, nous, on est sur des difficultés d'accès aux soins, mais alors, pour eux, je vous en parle même pas. Il y a pas, quand il n'y a pas l'aide médicale d'État, quand il n'y a pas... comment on fait, en fait? Et là, par contre, nous, en ce qui nous concerne à la traverse, on va faire des dépôts de dossiers spécifiques, on pose des projets, où on va chercher de l'argent, notamment on en avait trouvé auprès de la région, sur des demandes spécifiques d'accompagnement pour le soin, par exemple, pour payer des interprétariats, pour pouvoir proposer des psychologues. Voilà, c'est des choses comme ça. Et effectivement, on est au coup par coup, alors que ça devrait être fluide, finalement. Mais comme pour nous, encore une fois, moi, je reviens sans arrêt sur le fait que c'est des personnes qui sont comme nous et qui ont les mêmes besoins, qui ont mal aux dents, qui se cassent un pied, qui ont des erreurs d'estomac, enfin, voilà, qui font des cauchemars, parce qu'en plus, eh ben, ils ont des parcours qui sont beaucoup plus compliqués et qu'il faut les aider à se sortir de ça.
Moi, je dirais que... En regardant, en recherchant un petit peu sur ce qui se fait en France, sur les politiques aussi européennes, je pense qu'il manque, comme l'a dit d'ailleurs très, il n'y a pas si longtemps que ça, un rapport du Sénat en 2022, et il manque beaucoup de coordination, surtout entre les acteurs qui agissent, voilà. Donc il manque de la coordination, il manque une culture commune autour, pour moi, des phénomènes migratoires. Il manque une vraie politique européenne. Ça dépend pas que de la France. Faut pas penser ça. Je pense pas, quels que soient les gouvernements, personne n'est contre. Enfin, peut-être certains le seraient, mais s'ils arrivent au pouvoir. Mais en tout cas, actuellement, je pense pas qu'il y ait un déni sur ces phénomènes migratoires, ni il y a une mauvaise volonté. C'est pas du tout de cet ordre-là. Quand on rencontre ici, sur le plan local, les responsables de la DDE-TSPP, quand on rencontre les différents acteurs, quand on rencontre le département, ils ont tous envie de nous donner les moyens de ces politiques-là. Ils ne les ont pas. Après, ce sont de vrais choix politiques. C'est-à-dire que si on décide aux Européens de mettre vraiment des moyens que l'Europe aide pour l'accompagnement et l'intégration dans les pays, avec les accords de Dublin, etc., pour permettre à ces gens de vraiment s'intégrer dans les pays de leur choix ou dans les pays d'accueil, ça changerait du tout au tout, quoi. Donc il faut une coordination, il faut une responsabilité politique. Les pays européens ne sont pas du tout d'accord. Quand on regarde le positionnement de la Pologne par rapport à, ne serait-ce qu'à l'Allemagne, sans parler de nous, hein, l'Allemagne, elle a besoin de 800 000 personnes par an, quoi. Donc en entrée. Voilà. En France, on a besoin de 150 000 personnes par an. Donc le fait de ne pas gérer toutes ces politiques, en fait, ça crée de la discrimination, ça crée ce qu'on a vu, c'est-à-dire une protection transitoire pour les Ukrainiens et pas pour les autres. Ça crée, en fait, une incompréhension sur les territoires pour que les associations, elles, puissent œuvrer. Donc c'est vrai que je pense qu'on a les interlocuteurs, mais on n'a pas les décisions politiques, mais de façon beaucoup plus générale, qu'on devrait avoir, et du coup les moyens qui vont avec. Donc je crois que tout le monde essaye de faire le mieux avec les moyens qu'on a. L'ASE qui gère aujourd'hui les MENA n'a pas plus de moyens, donc en fait sur la même enveloppe il faut qu'ils gèrent, donc c'est compliqué pour eux de choisir. Voilà. Et on peut pas continuer à travailler comme ça. On crée, si on gère pas aujourd'hui, demain c'est des problématiques qui vont coûter beaucoup 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 plus cher, voilà, à l'État. Donc on peut pas continuer à travailler comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, et qu'en plus c'est pas un problème pour la France, c'est une solution. Je le redis.
Notamment, y a eu des exemples dernièrement. Donc c'est à Calac, donc je sais, c'est dans les Côtes d'Armor, voilà. Il y a eu là l'extrême droite qui a joué sur le fait que, attention, vous allez créer un centre d'accueil, d'asile, machin. Alors qu'en même temps, dans une autre région, donc je l'ai pas noté, je crois que je l'avais noté, mais non. Où pour le coup, ça avait été prouvé, même d'ailleurs, je crois qu'au CADA en Lozère, ça a été prouvé que finalement, créer des centres d'accueil de demandeurs d'asile, ça contribue à développer des territoires qui eux-mêmes sont en déclin démographique. Donc finalement, chacun s'enrichit les uns les autres.
C'est une politique d'accueil, et les élus, voilà. Effectivement, comme disait Nicolas, sur Chambon-le-Château, Langogne, etc., ils ont bien vu hein, le bénéfice aussi par rapport à la désertification, tout simplement. C'est pour ça que quand on parle de politique d'accueil, il faut la penser de façon systémique, ouais. et dire, voilà, qu'est-ce que... D'abord, arrêtez de faire de l'échange, c'est-à-dire, on vous donne ça, vous nous donnez ça. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on a une pensée, on a une projection, on imagine le futur, et il y a des réalités. Hein. On n'a pas parlé des réfugiés climatiques, mais c'est aussi une réalité. Mmh. Et voilà, donc il faut qu'on soit collectif et qu'on pense ensemble le futur, parce que les jeunes qui partent du Soudan, par exemple, c'est des jeunes qu'on va retrouver ici avec des difficultés qui sont vis-à-vis de la réalité et du futur qui sont les mêmes. Enfin, il faut arrêter de tout dissocier comme ça et effectivement le penser ensemble. Et dans nos territoires, c'est effectivement une vraie richesse. Et cette diversité, enfin moi, la différence pour moi, elle est essentielle pour la richesse. Enfin voilà, on ne peut pas imaginer quelque chose de complètement linéaire, tout blanc, tout gris. Enfin voilà, c'est pas possible. Plein de couleurs.
Je propose qu'on termine là-dessus. Ouais,
merci.
Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Trottour et Corinne Sauvio.
Merci.
Merci.
Merci Eric, merci Cyril.
Merci.
À bientôt.
On se dit à très bientôt sur 48 FM.
À bientôt.
Au revoir.